Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous. On vous souhaite surtout un excellent week-end, il est 6h. Bienvenue à tous, bon réveil.
Europe Matin Week-end, Lénaïque Monnier.
Et la première édition du jour vous est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Week-end noir, hein, vous le disiez, sur les rails, seulement 4 trains sur 10 circulent. Les contrôleurs sont en grève et menacent déjà de reconduire le mouvement pour les fêtes de fin d'année.
Comment éviter le blackout en cas de surchauffage du réseau électrique? Les autorités misent sur la responsabilité des Français et sur l'approvisionnement des voisins belges.
Et les Bleus aussi veulent éviter un blackout en 8e de finale face à la Pologne demain. Ils devraient notamment pouvoir compter sur Antoine Griezmann. Il en est à 70 sélections consécutives en équipe de France.
Antoine Griezmann qui vieillit bien avec les Bleus. Et si vieillir était une chance, ce sera d'ailleurs le thème des meilleurs moments de bienfait pour vous tout à l'heure avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Et puis à suivre aussi après votre journal, Clotilde, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes. Mais avant cela, première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le sud-est, très pluvieux aujourd'hui. Partout ailleurs, un temps gris mais plus sec. La neige qui tombe abondamment depuis hier soir du Massif central aux Cévennes ardéchoises.
Et météo complète évidemment juste après le journal. Clotilde, premier cadeau empoisonné donc en ce début décembre pour les voyageurs SNCF.
60% des TGV intercités sont annulés jusqu'à dimanche en raison d'une grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur statut. L'axe atlantique est particulièrement touché avec seulement un TGV et un Ouigo sur 4. Au grand désespoir des voyageurs rencontrés à la gare de Montparnasse à Paris par Thibaut Hue.
Valise à la main, Clémentine s'agace pour rentrer chez elle à Bordeaux. Malgré la grève, elle a dû changer de train en catastrophe.
J'ai eu une journée de stress énorme. Je vais rentrer plus tard chez moi, que je suis pas sûre d'avoir un bus pour rentrer chez moi, que du coup j'ai dû m'organiser autrement, payer le billet de train plus cher. Je l'ai payé 111€, juste le retour, alors que de base j'avais payé 110€ l'aller-retour.
Et pour beaucoup de voyageurs comme Clément, ces annulations en cascade ont bousculé le programme du week-end.
Enfin, c'est un peu embêtant, je vais rentrer tôt sur Saint-Malo et finalement je me retrouve à rentrer à 19h30 au lieu de 11h. Journée en famille, annulée, reportée.
Mais d'autres sont toujours sans solution. Lucie n'a pas de billet pour rentrer de son week-end en Bretagne.
Il n'y a pas de train, de ce que je sais, dimanche. Et puis j'aimerais bien passer quand même une partie de la journée avec ma famille, pas devoir partir tôt, quoi. Je sais pas, je vais peut-être essayer de trouver un covoiturage, quelque chose comme ça. Bon. C'est l'option pour le moment.
Les perturbations nombreuses vont se poursuivre. 60% des trains prévus ce week-end sont annulés.
Et le trafic devrait progressivement reprendre lundi. De nouvelles négociations entre les syndicats et la direction de la SNCF sont prévues la semaine prochaine.
Les trains qui, comme les métros ou tramways, pourraient être concernés par de potentielles coupures de courant programmées cet hiver.
Et c'est l'une des options envisagées par le gouvernement en cas de surcharge du réseau électrique. Alors pour éviter au maximum ces potentiels délestages, eh bien la France a inauguré hier une nouvelle liaison avec la Belgique pour doubler la capacité d'échange d'électricité sur les lignes à très haute tension frontalière. Et le président de RTE, Xavier Piechazik, compte également sur le comportement des Français.
Les coupures ne sont pas une fatalité. Nous allons prévenir les Français 3 jours avant. Les Français, les entreprises et les collectivités locales ont 3 jours pour s'organiser et faire le jour J les bons éco-gestes. Et si tout le monde fait ces bons éco-gestes le jour J, il n'y aura pas de coupure. Nous nous organisons pour les éviter. Les entreprises, les collectivités locales doivent nous aider. Mais nous aussi, nous mettons en service des nouvelles interconnexions le plus vite possible pour importer le plus d'électricité possible. C'est de la capacité d'importation supplémentaire. Et ça fait baisser le risque de jour éco-watt rouge. Je rappelle, un jour éco-watt rouge, c'est on programme des coupures, sauf si les Français se mobilisent, les entreprises, les collectivités locales, pour faire des éco-gestes.
Xavier Piechazik, le président de RTE au micro de Maximilien Carlier. Et puis toujours au chapitre énergie, le gouvernement va débourser 6 milliards d'euros de plus pour le bouclier tarifaire. Il devrait bientôt s'étendre aux structures collectives d'habitat comme les EHPAD. Cette rallonge doit aussi servir à combler le manque à gagner dans le secteur des énergies renouvelables.
Une rallonge prévue par un amendement approuvé par le Sénat au projet de budget 2023.
Oui, lui est toujours en cours d'examen alors que le budget de la sécurité sociale pour 2023 vient d'être définitivement adopté par le Parlement après le rejet d'une énième motion de censure.
Question budget, toujours on connaît le patrimoine de l'ensemble des ministres.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a mis en ligne les déclarations des 43 membres du gouvernement. Alors Arthur Delaborde, qui est le plus riche?
Eh bien, c'est Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a accumulé un patrimoine brut de plus de 10 millions d'euros. Des actifs tirés principalement d'un groupe fondé par son grand-père dont il a pris la tête et qui détient de nombreuses concessions automobiles. Plusieurs autres membres du gouvernement sont millionnaires. C'est le cas d'Elisabeth Borne qui déclare un montant total d'1 670 000 euros. Le patrimoine de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher est encore plus conséquent, 2 680 000 euros. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, déclare de son côté 4,5 millions d'euros, un patrimoine principalement immobilier, mais aussi de nombreux biens mobiliers de valeur, comme une Rolex et deux motos Harley-Davidson. À 33 ans, le ministre du Budget, Gabriel Attal, détient lui des actifs financiers évalués à près d'1 600 000 euros. Patrimoine bien plus conséquent que celui de son collègue de Bercy, Bruno Le Maire. Le total des biens et placements du ministre de l'Économie s'élève à 295 000 euros.
Les précisions d'Arthur. De la Borde.
À 6h05 sur Europe 1, la suite de votre journal Clotilde May. On parlait tout à l'heure des galères du train. Et si on optait pour le bateau?
Oui, alors pas toujours pratique en fonction d'où on habite. Mais bon, on peut se renseigner au Salon Nautique de Paris qui débute aujourd'hui, porte de Versailles. Et puis ça peut aussi être l'occasion de préparer les prochaines vacances, Baptiste Morin, puisque la location de bateaux séduit de plus en plus.
N'allez pas croire que c'est forcément hors de prix. Dream Yacht, le numéro 1 mondial de la location de monocoques et de catamarans, propose un catalogue de 850 navires. Certains sont accessibles à partir de 1500 euros la semaine pour 4 personnes. Et Dream Yacht a d'ailleurs vu sa clientèle se diversifier largement après la crise sanitaire, comme l'explique son fondateur Loïc Bonnet.
Le Covid, je ne vais pas dire que c'était une bonne chose pour nous, on a failli mourir, mais sur du long terme, c'est positif parce que historiquement, on avait des clients qui étaient surtout ce qu'on appelle des voileux, des gens qui faisait de la voile. Et là, depuis le Covid, la proportion de location avec un skipper, donc pour des gens qui savent pas servir d'un bateau, a plus que doublé. Donc on a une nouvelle population qui est arrivée et qui en redemande.
L'entreprise devrait enregistrer en 2022 un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros, 50 millions de plus qu'en 2019, année référence. L'enjeu des prochaines années, c'est l'électrification, un chantier important et incontournable. Dream Yacht attend d'ailleurs son premier catamaran électrique.
Baptiste Morin, le Salon Nautique de Paris, c'est jusqu'à samedi prochain.
Et puis nous, on va pas se mentir, on aimerait bien voguer jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, J-1 déjà entre les huitièmes, France-Pologne.
Oui, ce sera à suivre dès 15h hein, demain dans Europe 1 Sport, match où Antoine Griezmann devrait honorer sa 71e sélection consécutive chez les Bleus, un record qu'il doit aussi au sélectionneur Didier Deschamps.
Je crois que Vieira c'était 44. Quand on était à la 40e, bah on faisait un peu des appels du pied au coach pour qu'il continue à me mettre. mais non, après voilà, c'est aussi la relation que j'ai avec l'entraîneur. Je lui dois énormément. C'est lui qui m'a appelé et depuis bah on s'est pas quitté. C'est une très belle relation et voilà, je lui dois tout en équipe de France. Je donne tout pour le maillot, pour la France, mais aussi pour lui. Et chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie et voilà, essayer de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7.
Et comme Antoine Griezmann et la France, la Corée du Sud et la Suisse ont pris les dernières places qualificatives hier. Les huitièmes de finale, ça débute donc dès aujourd'hui au Qatar avec deux premiers matchs à élimination directe. Pays-Bas, États-Unis à 16h et Argentine, Australie à 20h.
Et on n'oublie pas évidemment le journal de la Coupe du Monde juste après le journal de 7h30. Ce sera en compagnie ce matin de Cyril de la Morinerie. C'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Et Valérie Darmon, côté temps, eh bien vous nous dites à 6h09 sur Europe 1 qu'il y a beaucoup de grisailles et même de la neige dans le sud-est.
Eh oui, beaucoup de neige. On a une perturbation qui rentre en ce moment sur ces régions du sud-est, arrosant d'abord copieusement le pourtour méditerranéen, jusque sur le massif central et le Limousin. Il neige ce matin au-dessus de 600 mètres sur le massif central et cet après-midi vers 1200 mètres sur le sud du massif, vers 700 à 800 sur le nord de l'Auvergne en faible quantité. Et puis il neige également beaucoup cette fois, surtout cet après-midi sur les Alpes du sud du côté du Mercantour au-delà de 1100 mètres. Et puis cet après-midi aussi, les pluies qui vont s'intensifier sur le Languedoc, le sud de PACA, tournant par moments à l'orage sur les côtes et notamment dans le Var. Ces précipitations qui s'étendent donc ce soir de PACA au Languedoc-Roussillon, au Poitou-Charentes, en passant par l'Auvergne et le Limousin. Et puis on a aussi de faibles chutes de neige ce matin sur la Normandie.
Ah oui.
Mais cette neige qui ne tient pas au sol tout de même, mais soyez prudents néanmoins. Et puis vous n'êtes pas à l'abri d'une ondée sur la pointe du Cotentin, le nord de la Bretagne. Et en fin de journée, sur l'Aquitaine aussi. Pour le reste du pays, c'est gris de toute façon et c'est même froid.
C'est un temps à faire le sapin. Il fait froid, vous le disiez, Valérie. Les températures dégringolent, hein, ça y est.
Dégringolent. Donc actuellement, 1 à Millau, 2 à Besançon et à Lille, ainsi que Mulhouse et Clermont-Ferrand. 3 degrés seulement à Paris, à Caen et Orléans, ainsi que Strasbourg. 4 dans le Bordelais, 5 à Montélimar. Et 6 à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie. À prochaine météo, évidemment, ce sera à 6h30. Dans un instant, la conso, Olivier Poul sera avec nous à 6h20 pour nous donner ses conseils pour un Noël festif dans vos assiettes et léger dans votre budget.